Chase you out of earth.
Il est 20h03 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir tout le monde, on est de retour ce soir pour un grand soir. Un soir de Ligue des Champions, évidemment. On a mis nos beaux maillots avec Paulin, que je vais tout de suite présenter, qui m'accompagne ce soir. Salut Paulin. Hop, avec Lous, micro c'est mieux.
Salut Faustin, bonsoir à tous. Comme tu l'as dit, gros match ce soir. Donc là avec Faustin, on a sorti nos maillots. J'ai Lamine Yamal pour moi derrière le maillot et on a hâte d'être à ce soir.
Évidemment, on reviendra forcément sur les matchs de Ligue des Champions tout à l'heure dans les actus internationales. Et avant ça, je vais présenter Amaury. Salut Amaury.
Salut. Bah, et moi, je l'ai chez moi le maillot. Hein. J'en ai un. J'ai le rose là, de je ne sais plus quelle année. Oui. C'était bien pour l'été, mais je l'ai pas sur moi ce soir. Mais je serais plutôt côté Barça de toute manière.
Voilà. T'aurais dû le mettre quand même pour la symbolique, pour la belle image des trois copains avec le maillot. Voilà. On va sans plus tarder commencer avec les actus locales. On va commencer par le basket. Lufab, on a appris aujourd'hui le départ de Amherst, Alston, joueuse très importante dans la réussite angevine cette saison. On va voir si son départ sera comblé cet été pendant le mercato. Pour l'EAB, c'est une victoire 111-71 à Avignon, ce qui permet à Angers de rester premier avant le dernier match à domicile qui se joue en ce moment contre Charleville à Jean-Bouin. Et il y aura du coup le dernier match de la saison. Ce sera vendredi soir. Pour Cholet, c'est une défaite 94-75 contre l'ASVEL. Avec cette défaite, on est sûr que Cholet n'accédera pas au podium cette saison, mais aura quand même l'avantage du terrain en play-off en terminant quatrième. Il reste désormais deux matchs à jouer. Il faudra finir sur deux bonnes notes afin de se mettre dans les meilleures conditions pour démarrer cette campagne de play-off. Voilà pour le basket. On va passer sur, je pense, la plus grosse actu qui nous a tous réjouis ce week-end. C'est le SCO Foot qui nous sort une magnifique victoire, 1-0 à la Beaujoire. Et qu'est-ce qu'elle fait du bien, cette victoire, parce que sans ça, le SCO se retrouvait à la 16e place en cas de défaite. Je parle à la 16e place, c'est synonyme de barrage. J'ai un peu de mal ce soir, pardon. Mais maintenant, il y a Strasbourg ce week-end, puis Lyon dans deux semaines. Les gars, ça fait quand même beaucoup de bien, cette victoire.
Ouais, exactement. Belle victoire des Angevins avec du caractère. Et c'est exactement là qu'on les attendait, parce que la semaine dernière, on en parlait avec Mathéo et Amaury. On disait que avec Mathéo, on était allé les voir face à Lille. Et justement, il y avait l'envie manquait. Mais là, franchement, très très belle victoire des Angevins à la Beaujoire. Et l'image forte, c'est Abdelli qui harangue le public angevin en protégeant le ballon avec Nico Cosa derrière le dos. Et c'est exactement ce qu'on disait quand on avait besoin d'un Abdelli là qui va chercher son public. Bah franchement, ça, c'est des images qui font plaisir. Il n'y avait pas de douceur angevine à la Beaujoire, ça on peut le dire. Il y avait de la hargne et de la combativité. Et franchement, ça fait plaisir de repartir là-bas avec les trois points.
C'était la dalle angevine plutôt.
Ah, exactement.
Ben, on a vu une équipe qui jouait le maintien, quoi, qui voulait jouer son maintien, qui voulait se maintenir. C'est la différence par rapport au match précédent. Tout simplement, hein. C'est certainement pas le plus grand match de football qu'on aura vu de notre vie. Hein. Les supporters nantais l'ont bien chanté dans les tribunes. Vous avez certainement vu passer la vidéo. On va pas citer leurs mots, mais ils s'ennuyaient fortement de manière un peu plus vulgaire. Disons que le chant c'était ça, et ça a duré 5 bonnes minutes, hein, quasiment. Mais en tout cas, voilà, le SCO a fait le taf sans faire un super match de football, mais il allait chercher ce qu'il fallait aller chercher. Et maintenant, on va dire que c'est bien parti. C'est pas terminé, parce que le Havre allait s'imposer après avoir été mené 1-0. Donc ça, c'est dommage pour le SCO. Maintenant, faudra essayer de prendre un point et ça devrait le faire.
Ouais, c'était ça. C'était la mauvaise nouvelle, on va dire, du week-end, avec le Havre qui s'est imposé 2-1 contre Auxerre. Parce que, sans cette victoire du Havre, on se retrouvait à 6 points du coup du barragiste. Et à deux journées de la fin, c'était
5 du barragiste. C'est 5 du barragiste et 6 de Saint-Etienne qui est premier relégable. Okay, là, on a 2 points d'avance.
Mais 2 points d'avance sur le barragiste.
Okay. Je pensais qu'il était à moins que ça. Pardon. Mais mais après, oui, le Havre joue donc Marseille et Strasbourg. Donc, c'est
ce qui est rassurant, en fait. Ces deux équipes. Alors, le Havre a besoin de points. Donc, c'est clairement le Havre. Ce sera pas une équipe simple à jouer pour importe l'équipe qui va y jouer. Il vaut mieux jouer à un Auxerre, à un Rennes, qui sont au milieu de tableau. Maintenant, que ce soit Marseille ou que ce soit Strasbourg, ils peuvent pas se permettre de perdre de points quand on voit le haut de tableau. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais, c'est tellement serré. Ils n'ont pas droit de perdre de points, donc ça va être compliqué comme le SCO. Ça va être très compliqué contre Strasbourg et Lyon. Lyon qui a fait une très mauvaise opération ce week-end, donc de toute façon Lyon doit prendre 6 points s'ils veulent espérer avoir ce qu'ils ambitionnent. Donc voilà, ce sera des matchs compliqués pour un peu tout le monde. Nantes qui est passé derrière le SCO avec cette défaite. À lui, un calendrier plus facile, hein, je me rappelle plus des matchs.
T'as Auxerre d'abord et après Montpellier.
Auxerre et Montpellier, deux équipes qui n'ont plus rien à jouer. Nantes doit prendre, j'ai envie de dire, 4 points sur ces matchs-là, hein. En fin de saison.
C'est clair, ouais.
Donc voilà, je pense que Nantes risque de finir devant le SCO, mais c'est pas là l'important. L'important, c'est clairement de pas être 16e ou 17e.
Voilà, c'est pour ça, faudra espérer des défaites, surtout du côté du Havre, et espérer accrocher un match nul, surtout contre Strasbourg. Je pense que c'est peut-être le plus abordable. Par rapport à Lyon, qui aura sûrement un peu plus la dalle.
Je sais pas. Strasbourg, c'est clairement la meilleure équipe en ce moment. Si on accepte le PSG qui ne joue plus en Ligue 1, entre guillemets,
Strasbourg était meilleur que le PSG, on est le 25.
Ils sont invaincus, l'avais dit, Amaury. Ils sont invaincus depuis
la défaite contre Angers en Coupe.
Ah oui, d'accord.
Ils sont invaincus et c'est deux matchs nuls.
Ok, bon,
ou 3. Ben, voilà. Mais bon, voilà, c'est... Et,
le Sco les a déjà battus 2 fois cette année, c'est ça que je veux dire.
La donc, bête noire. Maintenant, le Strasbourg qu'on a là, franchement...
il fait peur, ouais.
Ouais, il fait très peur. Alors, la victoire contre Paris... C'est une belle victoire maintenant. Paris ne jouait pas à 100%. Est-ce qu'ils sont pas meilleurs que Paris? Maintenant, aujourd'hui, c'est pour moi la meilleure équipe sur cette deuxième partie de saison. Il n'y a pas de débat.
Ouais, c'est pour ça ce que je disais. Mais l'équipe qui a pris le plus de points en 2025, c'est Strasbourg.
Et c'est fou quand on voit les budgets.
Ouais, ça. Et puis, on reparlera peut-être du Paris FC dans les actus internationales. Mais on parlera un peu de budget aussi, à mon avis, ici. Voilà, donc on espère évidemment pour le SCO une bonne fin de saison et une bonne nouvelle pour cette fin de saison avec en évitant les barrages. Je sais pas si on devait se projeter sur des barrages, comment vous les sentirez?
Moi, je connais mal les équipes de Ligue 2. Hein. J'ai pas regardé de match de Ligue 2 cette année, à part un petit bout du Paris FC justement juste après le rachat. Je m'étais un peu intéressé. Finalement, j'ai très vite décroché. Mais après, c'est toujours la dynamique. Un club qui arrive de Ligue 2, il est forcément sur une bonne dynamique. Il a gagné son premier match de barrage parce que le troisième affronte le quatrième. Et si c'est encore une équipe, le cinquième, il y a des matchs à gagner avant. Donc ça arrive avec la dynamique. Maintenant, tu as aussi un peu plus d'expérience souvent quand tu es en Ligue 1.
Tout à fait.
Souvent, c'est 50-50, j'ai envie de te dire.
Voilà, à l'heure actuelle, t'as.
C'est Lorient, je crois, qui est possible.
Non, Lorient, ça risque de monter.
Hein, Lorient est premier.
Ouais, Lorient est premier, c'est Metz, Dunkerque ou Guingamp. Sachant que Dunkerque, on se souvient de leur beau parcours en Coupe de France. Metz, c'est assez solide. J'ai vu quelques matchs de Metz en Ligue 2 et c'est des équipes qui dans le jeu. Bon après, forcément, c'est pas le même championnat, mais
t'es un vrai fan de foot quand même. Hein.
Bah, à dire des fois, tu t'ennuies.
Le genre de Metz, c'est des phrases qu'on dit rarement.
Ouais, mais tu t'ennuies et tu regardes un match de Ligue 2, tu vois. Bon, voilà, tu fais autre chose en même temps, rarement, mais j'ai 90 minutes de réelle attention, mais bon, voilà, ça m'est arrivé. Après, je pense que ça dépasse pas 2 matchs, hein, 2-3 matchs, je vais pas commencer à mentir. Mais en tous les cas, le gars, il assume pas qu'il regarde des matchs de Ligue 2, alors que le SCO y était l'année dernière. Mais ouais, donc ça peut être Metz ou Dunkerque ou Guingamp. Donc bon, après, de toute façon, ça reste des matchs de barrage. Dans tous les cas, on sait que toutes les équipes joueront pour aller chercher la place qui restera en Ligue 1.
Voilà, donc dans tous les cas, on va essayer surtout d'éviter ce match de barrage et de rester en Ligue 1 de la manière la plus propre qui soit et pour le rester le plus longtemps possible, éviter de faire la navette comme justement Metz l'a fait.
Nous on va au stade, si on peut éviter d'aller voir Metz et plutôt aller voir, tous les gros clubs qui se jouent les places européennes en ce moment, ce serait plutôt cool.
Voilà, également, parce que ouais, les supporters qui s'étaient d'ailleurs plutôt bien déplacés à la Beaugeoire avec...
Ouais, c'est vrai.
Le parquage en juin qui était rempli, qui faisait du bruit, ça fait plaisir à voir, c'est pas toujours le cas. Mmh. Mais quand c'est Nantes, en général, ça marche bien.
Il y avait plus de bruit que parfois à Raymond Kopa.
T'as pas tort.
En fait, c'est que les gens qui font, eux, vraiment du bruit, mais pas. Mais bon, on n'est pas là pour.
voilà, donc victoire magnifique pour le SCO qui se met dans les meilleures conditions pour aborder ces deux derniers matchs. Le SCO rugby maintenant, malgré la victoire, ça n'a pas suffi pour le SCO rugby qui avait été défait 45-24 au match aller contre Caen en 32e de finale de Fédéral 3 au match aller. Donc, et ce week-end, la victoire 24-12 à la Baumette n'a pas permis aux Angevins de se qualifier pour le tour suivant. J'ai envie de dire, au moins la saison se finit sur une victoire.
Ouais, c'est dommage parce qu'au vu de cette belle saison de pas passer ce tour. Maintenant, c'est quand même de bon augure pour la suite ce qui s'est passé tout au long de la saison.
Ouais, c'est clair, un 32e de finale de Fédéral 3 comme ça, ça fait toujours plaisir. Et puis c'était quand même accroché. On y a cru sur ce dernier match.
Il manquait, j'ai pas fait les calculs, mais il doit manquer un essai à pas de plus d'un essai finalement.
Alors
pour,
on est à 12 points d'écart et 45-24, on est à 21.
Ouais, un peu plus d'un essai.
Voilà, un peu plus d'un essai, ouais. Ça va vite ici, les mathématiques.
Tu nous as montré ça au début.
Ouais, bon. Bref. On va parler du score. Voilà, mathématiquement, ce sera plus facile. Il n'y a pas grand chose à compter. Parce que, c'était une défaite ce week-end contre Pau, 36-27. Et maintenant, le maintien à Mori est définitivement.
Ouais, pour compter.
C'est sportif.
Pour compter, c'est facile. 14 matchs à l'extérieur cette saison. 14 défaites. Voilà. Le SCO a réussi à un peu mieux sa fin de saison à domicile en allant chercher 3 victoires, mais bien sûr, ça ne suffit pas. Le SCO terminera dernier. Il fallait 2 exploits sur les 2 derniers matchs. Bah, des exploits surtout, 2 victoires plus que bonifiées, comme on dirait au rugby, c'est-à-dire à peu près 10 buts d'avance par 2 fois pour espérer pouvoir revenir sur la première place où on ne descend pas, je n'ai pas le mot, pour le maintien, voilà. Ce ne sera pas le cas. Maintenant, comme j'en ai parlé plusieurs fois dans l'émission, il y a pas mal de problèmes d'argent au hand, notamment pour les clubs de N1 qui n'ont pas les ressources financières pour pouvoir monter en deuxième division. Donc, le SCO devrait pouvoir se maintenir de cette manière-là. Maintenant, j'ai envie de dire, si un club de N1 qui mérite sa place a les moyens, bah, tant mieux pour eux en même temps. Et ça sera tant pis pour le SCO qui aura complètement raté sa saison.
Ça faut pas, le SCO ne s'est pas basé, ça n'a pas basé sur sa saison, non, sur le fait d'être maintenu financièrement non plus.
Ils n'ont pas été au niveau du championnat.
C'est
voilà,
c'était plutôt flagrant.
On sera content s'ils se maintiennent parce qu'ils ont un coach qui depuis qu'il est arrivé a fait du bon travail, même si ça n'a pas permis de gagner à l'extérieur. Et je pense qu'on est reparti sur des bases un peu plus saines qu'avec les anciens qui étaient à la tête de l'équipe. Donc voilà, j'aimerais bien quand même les voir en deuxième division l'année prochaine et voir ce que ça peut donner.
Voilà, parce que la fin de saison était plus. Marchait mieux finalement avec quelques
moins catastrophique.
Voilà, c'est ça. Il y a quand même eu des victoires. On va finir sur cette note positive, j'ai envie de dire. Voilà, comme pour le SCO rugby. Voilà.
Donc... Et dernier match à domicile la semaine prochaine. Je n'ai plus le nom en tête. Ce sera contre Caen. Comme pour le rugby, on espère finir à domicile par une victoire, comme pour le SCO rugby.
Voilà, ça peut être beau,
fin de saison.
Fin de saison, je sais pas ce que je voulais dire, mais on va faire
voilà, une belle fin de saison.
Une belle fin de saison. On va passer aux actualités internationales tout de suite. Je vous propose de commencer par la Ligue 1 pour être dans la continuité de ce dont on a parlé avec le SCO Foot. Si t'as ça
sous la main. Ouais, je vais te faire ça. Je l'avais pas écrit spécialement avec la Ligue des Champions, mais t'inquiète pas, ça va pouvoir se faire.
Un peu de temps.
Donc la Ligue 1 avec la dernière journée qui ne se jouait pas sous forme de multiplex, hein, donc avec le format habituel, et je vais vous donner les scores un peu de tous les matchs. Donc Nice a commencé par s'imposer 1-0 contre Reims. Strasbourg s'est imposé 2-1 contre le Paris Saint-Germain, deuxième défaite d'affilée pour les Parisiens, mais bon, l'objectif est ailleurs pour les hommes de Luis Enrique, et on en reparlera tout à l'heure. Toulouse s'est imposé 2-1 contre Rennes. Monaco 3-1 contre Saint-Etienne. Angers, on en a parlé, s'est imposé 1-0 contre Nantes. Le Havre, dans l'opération qui ne plaît pas aux Angevins, s'imposait 2-1 contre Auxerre. Lens 2-1 contre Lyon avec un but, j'espère que vous l'avez vu les gars, cette frappe qui permet à Lens de reprendre le score juste après l'égalisation lyonnaise, hein, 85e et 79e l'égalisation, juste après, ça fait très mal à la tête pour les Lyonnais.
Ouais.
Très mauvaise opération. Brest s'imposait 1-0 contre Montpellier. Ça ne surprend plus personne. Et enfin, le match était très important pour les deux équipes aussi. C'était Lille-Marseille, un partout, pour terminer la journée. Est-ce que vous avez pu regarder des matchs ou pas déjà, les gars ?
Non, toujours pas l'abonnement d'Azon, mais.
Alors qu'il suffisait d'aller à McDo il y a un petit mois pour.
Ouais,
avec...
c'est vrai, c'est vrai. Mais bon.
C'est plus toi, Amaury, t'as dû regarder le Marseille.
Le Lille-Marseille, oui, évidemment, j'ai regardé ce match. Une première mi-temps très, très, très tactique. Les équipes qui prennent pas de risques parce que l'enjeu était énorme et aucune équipe ne pouvait perdre. J'ai envie de dire, ce match nul, on aurait, en tant que supporter marseillais, presque signé en début de match parce que ça nous laisse en la deuxième place. Maintenant, en vue de la physionomie de cette deuxième mi-temps, quand même, qu'on a vraiment contrôlé ou en quelle on a été supérieur aux Lillois. Je trouve ça vraiment dommage, cette erreur de Rouli on peut pas lui en vouloir tellement il nous a sauvé un nombre de fois cette saison et qu'il a été un gardien exceptionnel pour Marseille cette saison. Maintenant, faire cette erreur là à ce moment-là, ça coûte la Ligue des Champions.
Ah, ça serait
on
terrible.
Va s'en souvenir très longtemps. Voilà, ma honte, ce qui se passe depuis que les Marseillais sont partis à Rome pendant leur semaine, ouais. Franchement, c'est vraiment pas mal ce qui s'est passé la semaine dernière, ce qui se passe là. Là, cette semaine, c'était pas sûr qu'ils y retournent, pas de discussion avec les joueurs, okay. Parce qu'il y a aussi un peu côté familial où c'est bien évidemment. Aussi de revoir un peu sa famille. Donc c'est le coach avait laissé la décision aux joueurs, ça devait être pris aujourd'hui, j'ai pas suivi spécialement. Mais voilà, en tout cas Marseille revient à peu près à son niveau qu'ils ont eu avant cette grosse série de 4 défaites à l'extérieur qui faisait très mal. Depuis 2002, il y avait pas eu ça à Marseille, hein.
c'est dire
et pourtant il y a eu des années bien moches. Mais donc voilà, c'est un match nul qui n'arrange personne et qui en même temps arrange un peu tout le monde.
Ouais, et moi j'ai envie de dire aussi force à Matteo et Alex qui subissent une dure période avec l'Olympique Lyonnais entre la remontada de Manchester United, ensuite la défaite, c'était
Saint-Etienne.
C'était Saint-Etienne.
C'est le derby. Le derby juste qui suit là.
C'est terrible ce qui se passe.
Et donc là, ils sont à trois points Lyon des places européennes. Alors la septième sur laquelle ils ont risque de l'être si Paris gagne la Coupe de France. Oui. Mais ils ont pas envie d'être en Conférence League avec Lyon, clairement. Oui. On voit qu'ils sont à 4 points de la Ligue des Champions. 3 points de la Ligue des Champions avec la 4e place. C'est fou.
Ça peut se jouer sur la dernière rencontre.
Ils ont encore rien perdu, mais ils sont bien dans une situation qui est plus que délicate.
Ouais. Puis la question pour Mathéo et Alex, c'est où est-ce qu'ils vont se positionner quand ce sera un match du SCO qui peut-être jouera le maintien en Ligue 1 face à Lyon qui jouera ses places européennes.
J'avais posé la question à Alex il y a 2 semaines, il m'avait mis un joker et il a pas su répondre.
Mathéo, je crois qu'il était un petit peu plus Lyon, mais il aurait bien aimé que ce soit joué avant, ce sera pas le cas.
Bah ouais, là
on peut le dire, ce sera pas le cas.
Ouais, c'est clair, là, au vu de tous les résultats, ça va être très compliqué.
Mais ce qui est fou, c'est que Marseille, qui aujourd'hui est deuxième, peut très bien se retrouver en Conférence League.
Bah ouais, c'est clair. On va avoir une dernière journée de Ligue 1 complètement folle. Ce sera un grand multiplex.
Ouais, c'est deux multiplex, deux fois les samedis à 21h
parce que t'as le SCO là qui reçoit Strasbourg 21h du coup à Raymond Coppa.
J'y serai pas, je regarderai Marseille.
Ah, je serais peut-être au stade, moi, histoire de voir ce que le SCO peut faire. Et je fais une petite aparté, parce que j'arrive à voir le score en direct de l'EAB. On a dit qu'il jouait contre Charleville. 28-22 pour l'EAB dans le premier carton. Pour l'instant, je vous tiendrai au courant
C'est un beau match offensif pour l'instant.
Ouais, 28-22 en premier carton.
Apparemment, il y a une bonne adresse à 3 points et ça défend pas très fort de ce qu'on me dit.
Ouais, l'EAB qui a mis 111 points, c'était vendredi dernier, donc ils sont sur une attaque plutôt performante en ce moment.
Et juste une question, qu'est-ce que vous en pensez de cette fin de saison du PSG en Ligue 1 qui
est-ce que ça fausse
en tant que supporter marseillais, fausse ce championnat parce que franchement, perdre contre Nice et contre Strasbourg qui sont des concurrents directs, mais que ce soit de Marseille, de Monaco, de Lyon, etc. En jouant des matchs pas à fond, clairement. Ouais. J'ai pas vu tout le match. J'ai vu un bout du match. C'était pas à fond. Ils ont pas tout donné pour remonter contre Strasbourg. Je trouve ça dommage, surtout quand on connaît l'esprit de Luis Enrique, mais en même temps complètement compréhensible au vu de ce qui les attend demain soir.
C'est plus ça. Imagine Marseille est en demi de LDC. Est-ce que tu comprendrais le fait
laisse-moi le temps de m'imaginer.
Oui, voilà, c'est sûr. Ou demi d'Europa si tu veux, voilà, parce que ça remonte. Oui.
C'était l'année dernière.
Donc c'est pour ça, c'est.
Non mais oui, évidemment. Mais en fait, je pense que en plus, il n'y aurait pas eu cette défaite contre Nice. Ce match-là, il l'aurait gagné quasiment. Parce qu'il voulait, cette invincibilité.
Oui, aussi, oui.
Et finalement, quand tu l'as pas, après faire une ou deux défaites ou trois défaites, même en fonction d'elle, ça changera plus grand chose. Mais je pense que Luis Enrique, quand on voit comment il répondait aux questions en conférence et la manière dont il a l'air d'être, ça doit pas non plus trop lui faire plaisir de perdre 2 matchs de suite en Ligue 1.
Ouais, après, j'ai pas vu les effectifs qu'il mettait sur le terrain. Est-ce que c'était plus des jeunes? Est-ce qu'il laissait quand même quelques cadres?
Sur le dernier match, je crois que par exemple, t'as le retour de Kangin Lee dans le 11, t'as Mayulu qui est titularisé, ou Arim Zaïre-Emery.
Il y a Ibrahim Mbaye qui est titularisé pour le PSG, par exemple. Ouais, pas de Ousmane Dembélé, qui en même temps, lui, logiquement, il revenait d'un petit coup face à Arsenal. Gonçalo Ramos, Barcola. Après, on a Mayulu qui, par exemple, a refait une apparition. Ça a tourné clairement.
Et puis Axel Tapp aussi qui était aligné. Donc oui, c'est sûr. C'est sûr que franchement, quand tu vois
Safo Neuf dans les buts aussi, voilà.
À la fois, il y a un 11 qui n'est pas le meilleur 11 PSG, loin de là.
C'est une équipe de Strasbourg qui a donné tout et qui est en forme. Donc voilà, c'est pas non plus une victoire imméritée du tout.
Ouais, exactement. C'est sûr.
Donc est-ce que ça fausse le championnat?
Non.
Je ne sais pas, on va dire
ça que. Ça ne fausse pas, mais c'est vrai que.
Mais c'est relou, je comprends.
Dans ta position, ça peut être.
Si ces matchs avaient eu lieu en février, est-ce que ça aurait été la même chose? Je ne pense pas.
Clairement pas. Personne ne les aurait remarqués. Puis, en février, le PSG les aurait joués.
Oui, c'est ce que j'allais dire. En février, je pense que ces matchs-là auraient été peut-être gagnés par Paris.
Il y a de grandes chances, tout de même. Pour ce qui est de la Ligue 1, on va passer à la pause musicale tout de suite, avant d'enchaîner sur le reste des actualités internationales, et notamment ce grand volet Ligue des Champions qui va arriver. En attendant, on s'écoute un peu de rap toujours. On va s'écouter « Je peux pas » de Unisature.
Je veux être une star, j'ai plus peur de la mort, et mon frère non plus, ça c'est grave notre truc. Je lui parle de la retraite, il me dit faut y arriver. Il a les pieds sur terre et la tête abîmée. On n'est que de passage, la vie de ma mère,
quand je fume des trucs, ils font perdre des trucs quand on boit des trucs en plus. Je peux vivre sans ça, je peux pas vivre sans ça, je bois des trucs trop sales et je fais des flaques. Mes potes imaginaires m'ont dit t'inquiète ça passera. Je lui ai dit touche pas à ça, sinon après ça te cassera. J'ai l'alcool qui tabasse. Beaucoup de peu sur un tout petit peu de tabac. Ouais, je pensais pas, mais en vrai c'est pareil sans toi. On faisait du sexe sur le canapé, même si des fois c'était sur la terrasse. Mon putain d'ego voulait la ramener, mais c'est de l'amour qu'au final on créa. Je lui ai dit touche pas ça. Elle l'a pris, elle l'a cassé en deux. Elle voulait une histoire, un truc joli à raconter avant de regretter de m'avoir rencontré. Vivre sans ça, je peux pas vivre sans ça. Je bois des trucs trop sales et je fais des flaques. Mes potes imaginaires m'ont dit t'inquiète ça passera. Je lui ai dit touche pas à ça, sinon après ça te cassera.
Et voilà, vous êtes toujours sur le 101.5 de FM de Radio G ou le site www.radio-g.fr. On est reparti dans cette deuxième partie de Génération Sport. On va parler Ligue des Champions, évidemment, dans les actualités internationales. Je te laisse aller, Amaury.
Ouais, on va commencer par le match du soir avant le match que l'on attend peut-être tous, même si les deux autour de la table qui attendent pas mal celui de ce soir.
Non, oh,
mais le match du club français, on verra ça juste après, c'est le Barça-Inter, match retour de la demi-finale qui s'annonce bouillant ce soir à Giuseppe Meazza. Le match aller était une folie, 3-3 avec un Inter clinique, ultra efficace dans ses rares incursions, menant 2-0 sans avoir touché beaucoup plus de fois le ballon dans la moitié de terrain adverse. Et un Barça qui a su revenir porté par un Lamine Yamal encore une fois magique et une frappe venue d'ailleurs de Rafinha, même s'il y a un tout petit peu de chance après avoir touché la barre pour arracher le nul. Maintenant tout est à refaire, la pression sur les épaules des deux camps, il y en a qui jouent à domicile, d'autres qui étaient censés être favoris à la base. Est-ce que pour vous du coup le Barça reste favori malgré ce contexte, ou est-ce que l'Inter ultra efficace peut encore surprendre? Dites-moi tout.
À mon sens le Barça reste favori, mais elle l'est quand même moins que ce que les gens pensaient avant le match aller. Je sais pas ce que t'en penses Paulin, mais quand même le match aller refroidit beaucoup le monde, surtout en voyant 2-0 aussi rapidement. Donc moi j'avoue que j'ai pris une sacrée clim, j'ai même pas eu le temps d'allumer ma télé, enfin mon téléphone pour voir le 1-0. J'étais pas bien à ce moment-là, mais je savais qu'on allait revenir évidemment, je n'ai jamais douté de mon équipe, mais ouais, c'est clair que là on est le Barça est clairement moins favori que ce qu'il n'était avant ce match aller. En plus il y a toujours pas le retour de Balde, il me semble.
Ouais, il est pas là.
Voilà, toujours pas Lewandowski, voilà des absences, enfin Lewandowski est sur le banc.
Il est sur le banc, ouais, donc on verra s'il rentrera ou pas, mais après ouais, moi je suis d'accord avec toi. De toute façon, là on le sait, bon le scénario du match aller, je pense que pour ceux qui ont eu l'occasion de voir ce match, c'était un match assez exceptionnel en tout cas à suivre de bout en bout. Nous en plus on se parlait, on s'envoyait des messages tellement on était choqués en fait de ce qui se passait entre la matière de Thuram première minute, c'est-à-dire que on a à peine le temps de se poser, t'as à peine le temps d'enfiler ton maillot pour regarder le match que tu regardes, t'es à 0-1, donc déjà tu te dis ok c'est compliqué.
J'étais en train d'allumer ma télé, j'ai vu le but sur le téléphone, but j'avais sur le téléphone avant, j'allume la télé et achevé. Attends. Oh, ah ouais, bah ouais, sur le téléphone, je vais regarder avant de...
Ben non, mais c'est sûr. Et après, donc, le Barça qui remet un peu le pied sur le ballon, qui essaye de jouer à la barcelonaise. Derrière, c'est une espèce de touche qui est interceptée. Il y a un corner, donc, le corner est frappé, Di Marco pour Acerbi, qui dévie sur Dumfries 2-0. Là, tu sais plus trop où te mettre quand t'es supporter barcelonais.
Avec deux buts qui sont
quand même.
C'est
une reprise de Dumfries. Là, c'est une reprise acrobatique qui est vraiment, c'est très fort. Et après, bon, on n'a pas trop le temps de douter, j'ai envie de dire, parce que Lamine Yamal, il nous fait un geste de génie là, il dribble toute la défense interiste.
Il est important le but.
C'est exceptionnel.
Là, c'est clair que ramener au score directement, revenir à un but directement, tu t'enlèves cette clim et tu te redonnes confiance. Une chance qui
arrive tout de suite. Hein. C'est ça arrive tout de suite en fait. C'est que nous, enfin en tout cas, quand t'es supporter, tu te dis bon voilà. On remet un peu les choses au calme. Il y avait 2-0, il y a plus que 2-1. Surtout que deux minutes après. Il a presque le doublé au bout du pied. Je sais pas si vous vous rappelez.
Ça aurait été le plus beau but de la soirée. Encore, il est encore plus beau.
Il fait glisser Di Marco. Il se remet. Il est dans un angle impossible. Il courbe un petit peu là. Puis c'est Yann Sommer qui la met sur la barre. Donc il fait un bel arrêt. Mais à partir de ce moment-là, le Barça remet le pied sur le ballon. Il y avait vraiment une claire domination dans le jeu. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, surtout sur la première mi-temps, parce que ça nous a rappelé un petit peu justement la première mi-temps face au Real en Coupe du Roi, où le Barça était dominateur. Après, on a l'égalisation avec l'ouverture magnifique de Pedri pour Rafinha. Rafinha, déviation pour Ferran. Ça, c'est une attaque typique barcelonaise. On les a déjà vu faire ça, surtout avec la qualité des longs ballons de Pedri. Donc, de partout. Derrière, c'est pareil. Il y a d'autres occasions avant la fin de cette première mi-temps. Et c'est derrière où, en tous les cas, enfin, il y avait forcément la fatigue, je pense, qui est rentrée en jeu par rapport à la prolongation qu'ils avaient et la victoire face au Barça. Faut rappeler que Jules Koundé s'est blessé aussi. Ouais, on l'a perdu en première mi-temps, ça fait mal. Et il est pas là, du coup, il est absent ce soir. En tous les cas, on a senti que le Barça était un petit peu plus vulnérable en deuxième mi-temps. Et on l'a vu parce qu'ils reprennent le troisième but. C'est encore Dumfries qui fait quand même un sacré match, faut le dire, du côté interis.
Élu homme du match. Bah, ça, on en pense qu'on veut, mais élu homme du match.
Ah bah, tu mets doublé
ça, mon Dumfries, il passe D, hein. Il fait la passe D pour
moi. Ouais, mais pour moi, par rapport à Lamine Yamal sur ce match-là, tu peux pas.
Ouais, mais attends, parce que, tu vois, Lamine Yamal fait un match extraordinaire. Moi, je vais pas dire le contraire, mais dans le sens où Dumfries, voilà, c'était à l'extérieur. Ils font 3-3 quand même à Montjuïc.
Quand on se dit, lui, il a fait un match fou et le match qu'on retiendra, historiquement, on retiendra ce qu'a fait Lamine Yamal sur ce match-là. On retiendra pas Dumfries, malgré que ce soit magnifique de faire ça en demi-finale de Ligue des Champions.
Bah ouais, parce que t'attends peut-être un peu moins Dumfries aussi, surtout en tant que buteur, double buteur même, et passeur. Et faut se dire que, donc là, ils mettent le 3-2. Après, on a, pareil, pas le temps de douter pour les Barcelonais parce que Rafinha, il t'envoie un missile pleine barre. Bon, ça rebondit dans le dos de Sommer, mais tant mieux. Mais après, le quatrième but de l'Inter, il joue à une demi-pointure qui t'a rien là, et c'est encore Dumfries qui fait la passe et qui s'échappe dans le dos, parce que bon, on connaît l'alignement défensif du Barça qui est assez haut parce que ça joue piège du hors-jeu. Mais quand on voit la VAR et l'espèce de demi-pointure, moi je sais que si c'était arrivé au Barça, ce genre de règle, moi je suis pas trop, enfin ça m'énerve un petit peu. Je suis d'accord, pour moi c'est totalement contre foot. Bon là, en tout cas nous, ça nous arrange Faustin, parce que
toute la saison ça nous arrange.
Il y a trop de trains, tu vois. Mais en tous les cas, je suis fan de l'Inter. Je me dis, c'est pas possible. Il y a une demi-pointure. S'il faisait du 40, il y avait but. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Mais en tous les cas, je pense que pour revenir à ce que tu disais, le Barça est moins favori qu'il l'était, parce que à Giuseppe Meazza, c'est comme une ambiance assez hostile. Bah voilà, ils vont avoir le public avec eux, et on a vu ce qu'était capable de proposer l'Inter. Donc ça va être intéressant. Mais en tous les cas, Barcelone nous l'a encore montré, surtout sur la première mi-temps, la qualité de jeu qu'ils peuvent proposer peut laisser croire qu'ils peuvent quand même faire la différence ce soir. Ouais.
Mais il faudra que l'Inter, s'ils veulent pouvoir s'imposer, ils jouent plutôt comme en deuxième mi-temps et pas qu'ils... Première mi-temps, ils ont été très passifs. Finalement, ils mettent deux buts, mais ils ne remettront jamais deux buts en jouant cette même première mi-temps. Ils ont été très très passifs à attendre le Barça, un peu à l'image de ce qu'avait fait Liverpool au Parc, mais en réussissant à marquer deux fois en première mi-temps, ce qui est exceptionnel, hein, franchement, en jouant comme ça. Deuxième mi-temps, de toute façon, on les a vus dès l'entame, hein, beaucoup plus haut, et l'Inter aura besoin de jouer plus haut comme ça pour embêter le Barça, parce que ce Barça-là, on l'a vu sur leur deuxième but. Même si t'es bas, avec la qualité technique qu'il y a d'un Pedri, d'un Lamine Yamal qui est capable de passer à travers n'importe quelle défense, ils vont marquer.
Ah, c'est sûr.
Ils vont marquer, donc il vaut mieux défendre plus haut. Tu reprendras peut-être aussi un but, mais t'as plus de chances d'en battre quand même qu'en attendant derrière. Maintenant, l'Inter, c'est être limite et ça...
Attention,
parce qu'on a
but sur coup de pied arrêté quand même.
Et on a parlé d'Arsenal l'autre fois, qui était une des meilleures équipes en Europe. Bah, en fait, il y a une équipe devant eux. Les commentateurs l'ont dit sur ce match-là, c'est l'Inter.
Ouais.
C'est l'Inter, et donc attention à ça.
Ça, de plus que la défense du Barça est un peu remaniée là, avec l'absence de Balde à gauche, de Koundé à droite. Du coup, il me semble que c'est Inigo.
Eric Garcia qui va être aligné à droite dans le couloir de Koundé, et Gérard Martin normalement à gauche, qui a fait un plutôt bon match ce week-end.
Mais même si c'est quand même passé plusieurs fois sur son côté par Dumfries.
Ah bah par contre sa prestation en Ligue des Champions, enfin la semaine dernière, elle est pas très bonne à Gérard Martin. C'est ce week-end. Et je me dis, tu vois, ça peut être bien aussi pour lui de se mettre en confiance sur un match comme ça où justement il est élu homme du match. Là, c'était contre Valladolid où il fait une belle passe décisive pour Fermín. Donc aussi c'est des choses qui peuvent mettre en confiance avant une telle rencontre.
Quand on parlait d'équilibrer ou pas, je regarde les cotes, 2,55 pour l'Inter, 2,55 pour le Barça.
Ah voilà.
Voilà,
on est pile sur ça. C'est, moi, c'est ce que je comprends. C'est, les bookmakers ont raison.
Toi, tu mets un tout petit peu le Barça parce que t'as le maillot sur les épaules,
c'est
mais
ça,
voilà.
Mais j'aurais mis 2,50, 2,55 si tu veux, mais ouais, comme c'est à l'extérieur, on a vu que le Barça pouvait largement se faire surprendre. Revenir d'un 2-0 en demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas tous les jours que ça arrive non plus. Donc ouais, c'est normal que l'Inter fasse plus peur que ce que les gens en avaient pensé. C'est peut-être des matchs non plus l'Inter que les gens n'avaient pas des masses regardés. On regarde plus sur cette Ligue des Champions, bah justement le PSG, le Barça, on a regardé le Real Madrid, ce genre d'équipe. L'Inter est un peu passé sous les radars.
Brest
également, oui, c'est vrai. Pas très longtemps, mais on les a regardés au début de la saison. Mais ouais, du coup, l'Inter est passé sous les radars et là arrive au grand jour et en fait, c'est une super équipe européenne qui est première de son championnat et voilà.
Et en fait, on est surpris tous les ans en fait, mais tous les ans maintenant, ils vont loin en Ligue des Champions sur les dernières années. Ils ont fait une finale contre c'est Manchester City.
La finale c'était contre City. Perdu 1-0 de Rodri.
On la connaît.
Je me souviens de ce match-là. Bien que je supporte aucune des deux équipes.
Mais voilà, donc mais ces dernières années, ils sont souvent à ce stade de la compétition et j'ai l'impression que tous les ans, justement, on les sous-estime et on se dit bof, si bon, ça va être simple, mais finalement, ils sortent toujours des grosses équipes et ils mettent à mal, même quand ils perdent, ils mettent à mal n'importe qui.
C'est un peu le mal du championnat italien aussi, qui est quand même peu regardé aussi et qui, je pense, globalement, à part les têtes d'affiche, est peut-être un peu moins bon qu'une première ligue ou une Liga.
Et je pense que à l'étranger, le championnat français a un peu le même impact.
Ça, à part le PSG. Bon.
Ça, je pense que par exemple Lille qui a fait un très beau parcours quand même. Que les gens ils ont été très surpris de ce qu'a pu faire Lille. Ou encore Brest en début de saison.
Même nous, t'es surpris.
Oui, voilà. mais voilà, je pense que c'est à peu près la même chose au niveau de ce que ça souffre.
C'est ça, ouais.
Même s'il y a plus de clubs historiques quand même du côté de l'Italie.
Oui, ça tu penses. Mais après, c'est des clubs historiques, mais qui sont peut-être un peu plus de mal cette saison. On pense à Turin qui a fait je ne sais combien de matchs nuls cette saison.
Là, c'est Milan aussi qui est bon. Il gagne 3-0 face à l'Inter pour aller en finale de coupe d'Italie. Donc ça c'est peut-être ce qui peut sauver leur saison, mais bon, c'est pareil, c'est des clubs historiques qui
là,
sont...
été mauvais, sauf contre l'Inter, cette saison.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, dans leurs oppositions.
Ça, c'est de la...
ça, c'est de la rivalité. On veut pas laisser gagner l'adversaire. Voilà.
C'est comme le SCO et Strasbourg. Voilà.
C'est pareil. C'est les mêmes villes et tout. Tout pareil.
Exactement. Bon, on a pas mal parlé de ce Barça-Inter. On va pouvoir passer au PSG. Paulin, tu nous lances un peu le débat et tu nous rappelles un peu ce qui s'est passé au match aller.
Exactement. Alors Arsenal-PSG 0-1, Paris a réussi à s'imposer face aux Gunners à Londres grâce à une frappe limpide d'Ousmane Dembélé servie par Gvara d'un délicieux extérieur du droit au début de la rencontre. Un résultat mérité dans une rencontre où les Parisiens ont montré de la maîtrise malgré des moments compliqués. Avec un milieu de terrain très performant, Fabian, Vitinha et Neves ont été impressionnants, autant dans les efforts de pressing et contre-pressing, dans la conservation et la gestion des temps forts, temps faibles du Paris Saint-Germain. Vitinha a fini homme du match, même si pour moi ce trophée doit revenir à quelqu'un d'autre, on en rediscutera juste après, parce que le PSG aurait même pu faire encore plus mal à son adversaire, avec une frappe de Barcola trop croisée qui s'échappe à quelques centimètres du poteau gauche de Raya à la 84e, pardon. Puis dans la foulée, Gonçalo Ramos est mis sur orbite par Marquinhos et envoie un pointard qui s'écrase sur la transversale du portier espagnol. Mais l'homme du match, comme je disais, s'appelle Gianluigi Donnarumma. Des énormes parades plus décisives les unes que les autres, notamment celle face à Martinelli à la 45e dans le temps additionnel, puis à la 55e face à Trossard, qui sauve deux fois les siens là-dessus et permet de garder sa cage inviolée. Score final 0-1 pour Paris à l'Emirates Stadium. Donc très bon résultat, en tout cas comme moi je l'entends pour Paris, parce que tu sors de l'Emirates avec un but d'avance. On en avait longtemps parlé, en plus on se demandait
tout le monde aurait signé,
la physionomie du match, on se demandait comment ça allait pouvoir finir, et au final Paris s'en sort très bien. Et puis rendez-vous demain au Parc des Princes pour voir ce qu'ils pourront faire. On va voir ce que vous en pensez les gars.
Mais déjà je vais revenir sur ce que tu as dit sur Donnarumma pour commencer. Ça fait quelques émissions à chaque depuis qu'on est en 8e de la Ligue des Champions, j'ai envie de dire pour gagner une Ligue des Champions, il faut un grand gardien. Paris n'a jamais eu quasiment un grand gardien. Keylor Navas a été celui qui a été le mieux, mais on n'a jamais eu un grand gardien, ou Donnarumma qui a toujours été un très bon gardien n'a jamais sorti les performances qu'il fallait en Ligue des Champions.
Ouais.
Cette année, il les sort, que ce soit face à Liverpool, il a sorti des parades.
Ah bah si, bah énorme, le match retour.
Ouais, le match retour.
Il est critiqué, voilà. le match retour,
parce que le match aller, il en a qu'une face à Elliott, il est critiqué pour ça. Par contre, au match retour, il y en a
qu'une. Elle est pas si simple. Et voilà.
Depuis ce match-là, qu'il est exceptionnel.
Match retour, il est exceptionnel. Face à Aston Villa, le match retour, sans Donnarumma, ça se trouve, Paris perd contre Aston Villa. Et alors là. Et alors là, oui. mais alors là, la fin de saison parisienne, c'est pas la même et on parle pas autrement du PSG, malgré leur très bonne performance sur janvier, février et mars. On raconte que c'est une saison qui reste moyenne parce que perdre face à Aston Villa. Finalement, c'est grâce à Donnarumma, ils sont encore là. Là, le match aller, il est encore monstrueux. Et ben, j'ai envie de dire, Paris a un grand gardien cette année en Ligue des Champions. Maintenant, faut encore confirmer ce soir parce que t'es pas à l'abri de rater un match. Et Donnarumma en a été quand même régulièrement faire des boulettes malgré le nombre d'arrêts qu'il peut faire. Mais Paris a un bon gardien cette année et ça change beaucoup pour aller gagner la Ligue des Champions.
Ça, j'espère que si ce soir il fait un match, même pas un mauvais match, mais un match pas extraordinaire. Où il sort pas justement les parades qui sortent les matchs d'avant, les supporters parisiens vont pas lui jeter la faute à lui dire
ça dépend les boulettes.
Si bien but contre son camp, s'il essaie de mettre un crochet
il
à un joueur,
fait la même passe que Rouli à la 88e
comme ce qu'il avait fait contre le Real avec
Benzema il tente un dribble et je pense que là en Ligue des Champions il dégagera peut-être un petit coup. Il
va pas. Pour lui,
je pense que dans la tête il a dû l'avoir beaucoup de fois.
Oui, il a appris. Je pense qu'il a appris.
Mais oui, sinon dans la physionomie du match c'était aussi un match bien plus fermé.
C'est difficile
de faire plus ouvert que l'Inter.
On a pris du plaisir, mais moins que sur l'Inter Barça.
C'était un match plus stratégique. Et moi aussi, ce que j'avais retenu, ce que j'ai vu des vidéos passer de ça, c'est que le but mis contre le Arsenal, c'est le même but qui a été mis dans la construction contre Liverpool, c'est-à-dire relance des défenseurs avec le milieu qui se déplace, qui laisse un espace libre pour Dembélé qui vient chercher la balle au milieu
et qui décroche, décroche assez bas. Ouais, en fait, comme un faux neuf.
Tu peux me regarder autant, j'ai plus le but face à Liverpool en tête. Donc.
Justement, je t'explique, c'est le même que contre Arsenal. C'est le but, c'est juste que à Arsenal, ça part du côté gauche, alors que contre Liverpool, c'est parti du côté droit. Mais vraiment, c'est la même chose avec à la fin la passe en retrait et le but. Donc
C'est bon, c'est bien.
Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant sûrement apporté par Luis Enrique qui lui aussi joue un rôle très important dans la réussite du PSG cette saison.
Et Ousmane Dembélé, celle-ci il y a 8 mois ou il y a un an, jamais fait poteau rentrant.
Avec Barcelone, jamais il avait.
Elle va à 3 mètres au-dessus. Alors, 3 mètres, je suis gentil.
3 mètres au-dessus, avec un coup de chance, elle fait poteau et tout le monde y a cru, mais jamais elle fait poteau rentrant. C'est ça, franchement, Ousmane Dembélé, on a déjà pu louer tout ce qu'il nous a fait cette saison, mais franchement, faut le dire, sur ce coup-là, elle est pas simple à mettre. On l'a vu, de toute façon, tous ensemble. Non, t'étais pas la semaine dernière, mais on l'a vu ensemble,
on
était sur les escaliers en bas de la radio en train de regarder le match. Et on l'a vu, on s'est tous fait la même réflexion. Bravo, parce que c'est pas simple.
C'est la confiance.
De toute façon, un attaquant, c'est
forcément meilleur.
Et puis Kvara fait un très bon match aussi dans l'aide qu'il a apporté à Nuno Mendes défensivement, parce que faut louer la performance qu'ils ont fait pour garder Saka et enfermer un petit peu Saka, dans le sens où il a pas été si dangereux que ça au final sur la globalité de la rencontre, parce que Nuno a géré son duel et Kvara est venu l'aider aussi.
Parce que on dit que le PSG est très fort depuis quand? Depuis janvier. Kvara est arrivé quand?
C'est un sacré coup,
tout n'est peut-être pas dû à Kvara, parce que Ousmane Dembélé aussi était meilleur à partir de janvier, etc. Mais la demi-saison que fait Kvara au PSG, c'est quand même très exceptionnel. Ça donne envie de voir des matchs, hein, ce qu'il fait en plus.
Dans le dispositif du PSG, ça a changé pas mal de choses aussi. Ça a bien arrangé Luis Enrique d'avoir un joueur comme ça. Justement, ça a permis à Ousmane Dembélé de vachement décrocher sur certaines actions, d'avoir un Désiré Doué qui pouvait permuter avec Barcola, donc d'apporter du 109 plutôt bon. Donc
et ce qui est fou, c'est quand même que ta star de début de saison, c'était Barcola, pas Dembélé, c'était pas Désiré Doué. Aujourd'hui, c'est sur le banc. Donc c'est à dire que ta star de début de saison, alors c'est un PSG sans star, on l'a entendu, rentrer en cours de match. C'est fou quand même.
C'est
fou de se dire que celui qui était censé être ton meilleur joueur, on en parlait comme du visage de la Ligue 1. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est remplaçant, et quand il est remplaçant, il peut toujours faire ce qu'il faisait en début de saison.
Le PSG a été très fort de reconstruire une équipe après le départ de Mbappé en bah en une saison comme ça et qu'elle soit aussi performante directement alors que la direction j'ai envie de dire la DA mais c'est pas vraiment ça mais la le fait justement de vouloir jouer sans star, ça vient d'arriver au club.
La DF, direction footballistique.
Voilà, la DF. Ouais, ouais, exactement.
By Amaury.
faut que tu déposes ce truc.
Pour, c'est fait. C'est déjà fait.
On va pas te le voler. Mais oui, du coup, ça vient d'arriver à Paris et ça marche déjà. Donc, c'est très fort aussi de leur part.
C'était bien marrant ça. Ouais. Non, on peut se demander justement là, qui, enfin, pour la dernière question, pour clôturer un peu sur ce passage LDC, la finale, messieurs, ce sera qui?
Bah, celle que je pense beaucoup. Vous avez tous les deux envie de voir et en même temps, elle va vous faire un peu mal parce que vous avez tous les deux envie de voir Paris gagner. Mais pour moi, il y a de grandes chances que ce soit le Paris-Barça. Mais maintenant, rien n'est joué sur les deux matchs. Clairement, rien n'est joué sur les deux matchs. Hein,
si je dois être objectif, j'ai envie de dire, j'ai maintenant plus. Il y a plus de chances que Paris soit en finale que le Barça.
Oui.
Au vu des matchs aller. Okay.
Là, c'est sûr. Bah oui, ils ont un avantage.
Façon, c'est la seule équipe qui a gagné à l'aller.
Bah voilà.
C'est la seule équipe qui a gagné à l'aller. Que Paris n'a pas.
Et ils sont gagnés à l'extérieur. L'Inter a fait un nul à l'extérieur, ils auraient tous signé pour ça.
Ouais.
Le Barça un nul à domicile, ils auraient pas signé spécialement pour. Donc la seule équipe qui a fait un très bon résultat, c'est Paris. Un bon résultat, c'est l'Inter. Et finalement, c'est Arsenal et le Barça. Ils sont dos au mur. Peut-être pas pour le Barça, mais en tout cas, ils sont pas en position de force non plus.
Ouais, je suis tout à fait d'accord.
Maintenant, on aura largement le temps de se projeter sur la finale dès la semaine prochaine ou encore un petit peu après. Oui. Ça doit arriver fin mai à la finale.
On fera un petit débrief quand même des matchs.
Oui, évidemment. Mais voilà. Et tout à l'heure, je pensais quand on parlait des hors-jeux, on pourra peut-être même faire ça en fin d'année quand tous les matchs de football seront passés, de revenir sur ces règles-là. Je pense que ça pourra faire un beau sujet d'émission.
Ouais, c'est vrai.
En invitant un arbitre ou quelque
chose comme ça. Ça pourrait être cool. Ouais,
voilà, l'idée, faut la noter quelque part pour pas qu'elle se perde.
Parfait. On va pouvoir passer sur de la NBA maintenant, après ce gros passage LDC. Une belle actu LDC, mais surtout une très belle actu aussi NBA. Faustin, on sait que tu es heureux depuis cette nuit. Ouais. Raconte-nous tout ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique.
Alors, en plus, maintenant, je suis en vacances, donc...
Pensais Paulin, mais voilà.
Je me disais aussi, c'était pas prévu comme ça. Bah, je te laisse faire, Paulin.
Bah, c'est surtout, en tout cas, pour cette nuit, moi, c'est parce que c'est les Knicks qui se sont imposés face aux Celtics. Mais on va remettre un peu les choses dans l'ordre. On va faire le point sur ces playoffs NBA parce que ça y est, on est désormais au second tour des playoffs. Donc, c'est donc l'heure des demi-finales de conférence. Et on a eu le droit à de nombreuses surprises. C'est simple. Toutes les affiches de ce second tour ont fini par un upset. Donc, une victoire de l'équipe qui joue à l'extérieur et qui, sur le papier, est, entre guillemets, plus faible que l'autre. Parce que, donc, la première affiche dont on peut parler, c'est les Cavs face aux Pacers. Victoire des Pacers 121-112, emmenée par leur meneur Tyrese Haliburton, qui commence à sérieusement élever son niveau de jeu sur ses playoffs. Après avoir renvoyé les Bucks de Milwaukee chez eux, il a cette fois-ci pris les choses en main en fin de match en inscrivant des tirs encore plus clutch les uns que les autres, et a été accompagné par ses lieutenants Nesmith et Nembhard pour venir à bout de ses Cavs. Les Cavs, eux, peuvent mettre cette défaite sur le dos de leur horrible adresse à 3 points. Ils finissent à 23% de réussite à 9 sur 38, quand face à eux, Indiana a tourné à 53% avec 19 sur 36. Mais n'enlevons rien donc à cette super perf des Pacers, qui prennent le match 1 dans l'Ohio sur le parquet de Cleveland et entament parfaitement cette série. Le match 2, c'est cette nuit à 1h30. On verra si les Cavs, qui avaient quand même le meilleur bilan de cette conférence Est, vont réussir à en prendre quand même un à domicile.
Spoiler, oui.
Attention quand même, parce que Evan Mobley est encore incertain. Evan Mobley, défenseur de l'année, on le rappelle. Darius Garland, pas sûr qu'il reprenne non plus. Ça fait déjà quelques matchs qu'il est out. Et DeAndre Hunter, qui est aussi, donc c'est un joueur qui sort du banc, mais qui a un apport offensif très important pour les Cavs. Donc, t'enlèves trois pièces quand même assez majeures. Donovan Mitchell ne peut pas tout faire tout seul. Donc, attention quand même.
En cas avec ses absences, ok. Mais sinon, quand on joue, en fait, la différence à 3 points sur le match, quand je sais que les Cavs, ils vont pas shooter aussi de manière aussi dégueulasse pour être cru pendant toute la série, et justement Indiana va pas shooter aussi bien pendant toute la série, et finalement, malgré cet écart de pourcentage énorme, il y a que 9 points d'écart à la fin du match.
Ouais,
je me dis, c'est une belle victoire pour Indiana, faut pas leur enlever. Maintenant, je pense qu'avec en rééquilibrant un tout petit peu, Indiana shoot un peu moins bien, les Cavs un peu mieux, ça va très vite tourner dans l'autre sens.
Ouais, ce qu'il y a sur le papier, les Cavs sont évidemment évidemment plus forts. Même quand on regardait le premier tour, les Cavs paraissaient plus forts que les Pacers. Après, dans ce match, ça c'est l'adresse qui a largement pêché du côté des Cavs. On va espérer pour eux et surtout pour nous de pas voir des matchs aussi peu productifs à trois points et parce que c'est pas beau à voir de voir des grandes briques comme ça balancer tout le match et puis on le souhaite aussi pour les Cavs après une saison comme ça s'ils se font sortir même s'ils vont en Game 7 contre les Pacers. Dans la tête, ça ferait bizarre.
Non, mais voilà, là je pense que ça sortait aussi d'une série 4-0. Petit relâchement, les autres en face ont joué un match de plus, ils n'ont pas non plus joué énormément. Ouais. Ça peut être une cause et c'est peut-être aussi une cause sur d'autres matchs dont tu as dû parler.
Exactement.
Voilà. Ouais, j'ai joué deux fois.
À noter que Kenny Atkinson a été élu coach de l'année, donc c'est le coach des Cavs, ce qui fait que quand même les Cavs dans leur rang, ils ont le meilleur défenseur de l'année en la personne d'Evan Mobley et le meilleur coach de l'année en la personne de Kenny Atkinson, qui était assistant coach pour l'équipe de France aussi au JO, faut le rappeler.
Avec Vincent Collet qui est aussi dans le staff.
Dans le staff des Cavs, exactement. Autre affiche où l'adresse à 3 points pour une des deux équipes a été exécrable, mais pour mon plus grand plaisir du coup, parce que c'est les Celtics qui ont fait un 15-60 à 3 points dans la rencontre face aux Knicks. Malgré ça, ça les a pas empêchés d'avoir 20 points d'avance, donc Boston avait 20 points d'avance à un moment donné dans le match au niveau du troisième quart-temps. Moi, là, je regarde le match, je me dis, bon bah là, c'est fini pour mes pauvres Knicks, parce que quand t'as des Celtics qui shootent aussi mal, mais que ton équipe perd quand même de 20 points, tu te dis, bah là, c'est compliqué, en fait, tu peux pas faire grand-chose, mais... Eh bien, pour mon plus grand plaisir, les Knicks ont réussi à faire un énorme comeback, emmené par un OG Anunobi assez exceptionnel dans les shoots longue distance. Le maire de New York, donc Jalen Brunson, pour ceux qui savent pas, ça y est, il a les clés de la ville. Hein, ce joueur, c'est quelque chose, même avoir joué, etc. Il a arrosé à trois points. On le sait, lui, le titre qu'il a eu, c'est Player of the Year. Donc, ça veut dire que c'est le joueur qui va te mettre les gros tirs en fin de match pour faire gagner son équipe. Et ben, c'est ce qu'il a fait. Les Knicks donc réussissent à égaliser, puis ça part en prolongation. Donc, ils perdaient quand même de 20 points. Donc, c'est un des plus gros comebacks, si ce n'est le plus gros comeback de l'histoire de la franchise en playoff. Et derrière, ils font le boulot en prolongation avec des gros stops défensifs très importants pour venir à bout de ces Celtics. Et bah finalement match 1 remporté par les Knicks, vraiment contre toute attente, parce que tout le monde voit Boston, que ce soit les analystes NBA, tous ceux qui parlent, tout le monde voit Boston passer. Bon là, c'est que le premier match. En tous les cas, les Knicks prennent le premier match au TD Garden, donc dans la salle mythique des Celtics. C'est quand même une très belle opération, et surtout pour la confiance, quand on voit le fait de revenir de 20 points d'écart. Après, on sait que les Celtics, ils vont pas faire 15-60 à 3 points toutes les rencontres.
Et encore pire que 15-60, c'est la fin de match de Jayson Tatum.
Affreux.
Il fait un super début de match, il met 13 points dans le premier quart-temps, et je crois que c'est 4 sur le dernier quart-temps plus prolongation cumulée, en envoyant 7 tirs à 3 points ratés, des step back forcés et tout. La fin de match de Tatum est très très moche, lui qui restait sur 3 matchs à plus de 35 points, je crois.
Ouais, il enchaînait.
35, 37 et 36, je crois qu'il fait. C'était régulier. Bah là, il a bien commencé, il a fait une fin de match catastrophique. Voilà, il faudra pas non plus miser sur ça pour. Et ça a aussi permis à New York de revenir. Maintenant, bravo à New York clairement, parce qu'aller chercher un match au TD Garden, il y a pas grand monde qui l'a fait. Je crois qu'ils sont les playoffs l'année dernière, personne ne l'a fait.
J'ai pas la stat.
Je crois me rappeler que personne n'a été gagné à Boston. Donc franchement, c'est fort, c'est très fort.
Ouais, surtout là-bas en match d'ouverture, sachant que les Knicks ils sortent aussi d'une série très très épuisante physiquement.
Exactement. Donc ça a donné des coups hein, face aux Pistons.
Ça surtout pour les joueurs des Knicks qui ont peu de temps sur le banc, beaucoup de temps sur le terrain. C'est le coaching de Tom Thibodeau. Mais après les Celtics sortent eux aussi d'une série très très dure physiquement. Contre Orlando où ils ont vraiment pris des coups. C'est Jason Tatum qui a dit là récemment.
Princesse.
À ce moment-là, autant jouer sans les arbitres. Mais enfin bref. Après, donc voilà, c'était deux équipes qui s'attendaient à se rentrer dedans, qui étaient déjà dans le bain des playoffs, contrairement à ce qu'on a vu avec Cleveland contre les Pacers. Et ça a pas manqué. On a vu un beau match et une belle victoire des Knicks.
Exactement. Donc passons désormais à l'Ouest où on a eu le droit à une série, enfin on a le droit à une série fantastique entre les deux candidats au MVP. Ça c'est aussi un gros débat parce qu'on ne sait pas encore lequel des deux va être élu, entre Shai Gilgeous-Alexander, donc le meneur de OKC, et Nikola Jokic, qu'on ne présente plus parce que ce qu'il fait encore c'est extraordinaire. Donc avec Denver, une victoire exceptionnelle au buzzer de la part des Nuggets de Denver, déjà coutumiers du fait face aux Clippers, et c'est toujours Aaron Gordon qui leur permet d'arracher la victoire. On en avait déjà parlé, il avait mis une espèce de claqué de dunk, ouais, sur un tir, un airball de Jokic pour donner la victoire dans un match hyper important face aux Clippers, parce que s'ils ne gagnent pas, ça se trouve, ils ne sont pas là aujourd'hui. En tous les cas, il a réitéré ça, 3 points pour permettre à son équipe de gagner, c'est très fort. Mais l'homme du match, il s'appelle Nikola Jokic, sûrement le meilleur joueur de la planète actuellement, parce que malgré son problème de faute, il envoie 42 points, 22 rebonds, 6 passes décisives, avec 16 points dans les dernières minutes du match. Le Thunder, il a complètement raté sa fin de match. Il menait de 11 points à 4 minutes 30 de la fin. Ils se sont laissés submerger par la puissance et l'agressivité de ces Nuggets, revenus à quelques petits points d'écart, avant de passer devant après un échange de nombreux lancers francs. Là, c'est ce que je disais à Faustin. Un coaching de Marc Degnaud assez bizarre, mais ils sont habitués à le faire. C'est tout le temps faire une faute sur les joueurs des Nuggets pour qu'ils aillent au lancer franc, reprendre la possession et essayer de marquer le plus de points. Mais au final, Chet Holmgren se retrouve à rater 2 lancers francs. Derrière, ça remonte la balle. Aaron Gordon à 3 points. Score final 121-119. 1-0 dans la série pour les Nuggets.
J'ai une grosse question où je pense personne n'aura la réponse. Mais est-ce que on a déjà eu une sorte de role player, en tout cas pas une superstar, qui met 2 game winners dans les mêmes playoffs?
C'est pas sûr, mais ça, tu vois, faudrait regarder.
C'est absolument pas la star de l'équipe. C'est un très bon joueur qui est titulaire, il y a pas de souci. Maintenant, 2 game winners sur les mêmes playoffs pour un joueur comme ça, franchement,
sur coup,
c'est sur les 2 séries à la suite, c'est exceptionnel. Et quand on voit d'où sortent en plus Denver, avec quand même un match 7 face aux Clippers, où ils s'étaient pas donné forcément gagnant, en tout cas, c'était très équilibré, parce que c'était chez eux, mais très équilibré, sortir ça et tout de suite derrière.
Le match 7, les Nuggets...
Oh, il est lamentable le 7.
La série en général, je suis d'accord avec toi. Le match 7, on n'en parle pas, parce que les Clippers, il est atroce. Ouais, c'est atroce ce qu'ils font.
Je suis revenu, j'ai fait mon montage vidéo devant.
C'était horrible.
Clairement, là, franchement, il y a peut-être ce même petit truc pour Cleveland, de sortir d'une série gagnée 4-0, où tu sors, t'es un petit peu trop tranquille, et t'affrontes une équipe qui, elle, est en pleine bourre, et surtout qui est vraiment dans le rythme. Maintenant, ce rythme, il va aussi se payer, je pense, au fur et à mesure des matchs pour Denver. Donc OKC devrait pouvoir revenir. Je pense que OKC va toujours gagner cette série. En tout cas, ce sera pas le 4-0 pronostiqué par Faustin dans notre émission Twitch jeudi dernier.
J'ai pas été excellent dans cette émission. J'avais dit que les Clippers allaient passer. J'avais dit que les Houston allaient passer. Voilà.
J'étais pareil que toi sur ces deux matchs. J'avais dit Golden State.
Golden State, du coup. Transition toute trouvée. Parce que pour terminer la dernière série, donc qui commencera cette nuit, ça oppose les Minnesota Timberwolves face aux Warriors de Golden State, et ça nous promet un choc au plus haut niveau et un duel électrique. Quand on connaît par exemple le passif de Draymond Green et Rudy Gobert, on sait qu'ils sont très copains. Évidemment non, ça s'est déjà battu sur le terrain. On peut s'attendre à du grabuge entre les deux. La performance des Wolves face aux Lakers, qu'ils ont balayé 4-1, montre bien la puissance de cette équipe et son niveau offensif comme défensif. Enfin, en tout cas, moi je m'attendais vraiment pas à une telle performance des Wolves, et aussi médiocrité dans le jeu des Lakers. Enfin, se faire sortir 4-1 quant à Luka et LeBron, ouais, je trouve que c'est peut-être une erreur de parcours. Après, c'était les premières playoffs de JJ Redick, le coach des Lakers. Donc, à mon avis, ils rediscuteront de tout ça. Et de l'autre côté, on a les Warriors qui se sont aussi fait peur face aux Rockets, parce que c'est allé quand même jusqu'en Game 7. Ouais. Bon, le Game 7, ils l'ont maîtrisé avec de l'expérience. Il n'y a pas eu trop de soucis pour les Warriors. En tous les cas, je pense que la série peut vraiment être très, 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 très belle entre les Warriors et les Wolves.
On en parlait justement sur l'émission que l'on fait entre les membres de Radio G et Génération Sport sur Twitch. Pour moi, ça va être une volée mise par Minnesota à Golden State. Je vois pas Golden State capable de défendre à l'intérieur sur tous les intérieurs et tous les grands du côté de Minnesota. Minnesota m'a impressionné. Il a un banc qui est pour moi meilleur. Je pense que je vois. Moi, j'avais annoncé 4-1 et je resterai là-dessus sur cette confrontation.
Ouais, quand tu vois la performance de Rudy Gobert dans le dernier match dans la série contre les Lakers, tu dis qu'il peut tout à fait faire ça contre les Warriors. C'était 27 points, 24 rebonds.
Exactement.
Il avait dominé la raquette de bout en bout. Et je ne sais pas qui pourra l'arrêter du côté des Warriors. Quoi. Donc,
maintenant, il faut aussi qu'il nous montre qu'il est capable de reproduire ce genre de performance. Je vois Minnesota gagner. Maintenant, est-ce que Gobert pourra tourner à plus de 20 points de moyenne et presque 20 rebonds? Ça, c'est pas encore sûr non plus.
Ouais, exactement.
On espère pour lui et les Wolves.
Tout à fait. Ouais. En tout cas, voilà pour les playoffs NBA. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres émissions.
Évidemment, on va
Juste avant de terminer, je donne très rapidement des infos. En rugby, c'était demi-finale de Champions Cup entre Toulouse et Bordeaux. C'est Bordeaux qui s'est imposé. On a aussi eu du cyclisme avec Lenny Martinez. Si vous n'avez pas encore entendu parler de lui, vous risquez d'en entendre parler. Il a fini deuxième du Tour de Lombardie, finissant notamment devant Remco Evenepoel. Et puis en athlétisme, on a Sacha Zoya qui a brillé ce week-end en battant deux de ses records personnels.
Et voilà, et on va tout de suite se laisser sur un autre regard et on vous souhaite bon match de Ligue des Champions.